France Culture. Le Book Club.
Bonjour.
On est tellement fan de votre ascenseur.
Ah, mais déjà il existe, ce qui est déjà bien.
Ouais, c'est bien.
Dans la bibliothèque de Riyad Satouf.
J'ai un peu aéré parce qu'il y a un problème de cheminée. Vous sentez une odeur de fumée d'ailleurs quand vous êtes entré? Ça vous a pas...
Hein? J'aurais bien aimé.
Vous avez le Covid?
Marie Richeux.
Non. En demandant à nos invités de déballer leur bibliothèque, nous espérons toujours qu'il naîtra de cette visite une nouvelle façon de parler d'eux. Parfois, ça ne tient pas à grand-chose, un détail, un tout petit décalage, pour les entendre un peu différemment, surtout, et c'est le cas de notre invité du jour, quand ils ou elles ont souvent eu l'occasion de parler de leur travail, donc d'une grande partie de leur vie. Riyad Satouf est aujourd'hui une des figures les plus reconnues, lues, célébrées de la bande dessinée française, cela par des générations très différentes. La grande saga de l'Arabe du futur, les cahiers d'Esther, ses incursions au cinéma avec les beaux gosses par exemple, lui valent un succès phénoménal. L'écouter parler des livres qu'il garde parfois depuis très longtemps, c'est aussi prendre conscience du chemin parcouru, depuis la puissante vocation de jeunesse jusqu'à une forme de tranquillité. C'est en faisant des livres simples, en forme de maison, avec des fenêtres pour regarder les arbres, que j'ai eu le plus de succès, dira-t-il en citant Mobius, l'une de ses idoles. Mais attention, tranquille, pas inoffensif. Riyad Satouf aime et a toujours aimé les livres avec des bactéries dedans, je cite. Des livres dérangeants, jouant avec l'interdit. Le marquis de Sade côtoie d'ailleurs dans sa bibliothèque des BD achetés dans l'adolescence ou les Tintins envoyés par sa grand-mère bretonne quand il vivait en Syrie. Ah oui, et je vous parlais de détails, eh bien le plastique qui recouvre certains livres depuis longtemps ou encore le portrait d'Antoine de Saint-Exupéry juste en face de sa table à dessin, mais aussi une façon joueuse d'interpréter la voix du capitaine ad hoc. Je vous laisse le suivre, vous allez voir, son enthousiasme est communicatif.
Super. On commence ?
Eh ben allez, d'accord, ok.
Donc, on arrive tout de suite dans l'endroit où il y a les livres ou il y a d'autres endroits où il y a des livres ?
Alors, il y a plusieurs endroits où il y a des livres. Ça, c'est l'endroit où je travaille, en fait, ici, qui est une petite pièce, enfin une pièce, et dans laquelle il y a des bandes dessinées, puis des livres. Alors, j'ai aussi plein de livres que j'ai laissés à la cave. J'avoue que je ne les ai pas tous montés chez moi. Ici, j'ai mis ceux que j'aime bien relire ou revoir ou que je tiens peut-être un peu plus que les autres, dans le sens où c'est des livres que j'ai collectionnés quand j'étais jeune et les autres, je les ai laissés. Alors, il y a des super livres qui sont à la cave,
Comme qui, par exemple? Qui s'est retrouvé à la cave?
Ceux qui se sont retrouvés à la cave, c'est les poches. Les romans en poche.
Vous n'avez pas gardé vos poches?
Bah si, je les ai gardés, ils sont tous à la cave. Mais le problème, c'est que je suis un petit peu allergique aux acariens.
Ah.
Et j'ai un problème avec les livres, je les adore, et puis en même temps, ils me font éternuer au printemps et à l'automne. Et donc... Tous ces poches imprimées sur du papier pas terrible qui fleurissent et qui sentent une drôle d'odeur, je les ai cachés. Voilà.
Est-ce qu'on rentre en détail dans les étagères un petit peu? C'est des grands cubes rectangulaires.
Ouais, c'est pas un chef-d'œuvre de menuiserie, mais je rêve d'ailleurs de pouvoir les refaire un de ces quatre, mais faites attention, ne pas vous tomber. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des BD. Alors, il y a plein de livres qui sont des livres que je m'achetais quand j'étais ado, jeune étudiant, avec l'argent que je gagnais, avec des petits boulots, etc. En fait, ils sont facilement reconnaissables parce que je les couvrais avec du plastique pour ne pas les abîmer. Parce que je me disais quand même, c'est beaucoup trop précieux. Par exemple, il y a une BD que j'adore qui est de Nicolas de Crécy.
Et elle est couverte en
Le Divin d'Homme Céleste. Donc, c'était la première édition de Rosumanine d'Associés, et ça, c'était en 94.
Et c'est hyper bien couvert, franchement.
Hyper bien couvert, ouais. Bah oui.
Bravo.
Alors j'y tenais extrêmement, enfin j'y tiens toujours, je parle au passé, mais non, je voulais vraiment pas les abîmer, etc. Donc je les couvrais, je les gardais, puis je les re-regardais de temps en temps. Enfin voilà. Et donc tout ça, je les ai montés. Donc il y a toutes les BD, il y a mes BD de Bilal, voilà, que je lisais aussi quand j'étais ado.
Il y a une sorte de rangement, il y a une
pas
logique
vraiment.
Ou pas trop hein?
Non, pas trop.
Chacun sa
là,
case.
Là par exemple, il y a un La Redoute, mais qui est le faux La Redoute. C'est un faux La Redoute qui avait servi pour le...
Mais c'est Jacob en couverture, non?
Ouais, et puis là c'est moi. Et c'est un faux La Redoute qui avait servi pour mon film Les Beaux Gosses. parce que le héros avait tendance à se masturber sur les pages érotiques. Ouais. Et donc, on avait fait un faux La Redoute des années 80, et où il y a toutes les pages où Irène était en petite tenue.
Putain, mais j'en ai marre des La Redoute, là, on peut pas se prendre un vrai truc de cul plutôt.
T'es fou, c'est des filles de la vraie vie qu'il y a dedans, c'est ça qui est bien. Mais attends, regarde, c'est ultra rare, complètement introuvable.
La Redoute, 1986.
Ouais, je l'ai pris à ma grand-mère après qu'elle est morte.
Voilà, il y a un peu un bazar. C'est pas tellement rangé, voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas de trop de logique.
Ça, c'est quoi? C'est des...
Ça, c'est pareil, c'est des livres qui sont couverts. C'est des livres japonais sur une série que j'adorais quand j'étais gamin, qui s'appelait Yamato, en fait, par Leiji Matsumoto. Mais ça, je les ai chopés plus tard. Les livres que j'avais quand j'étais... Voilà, par exemple, ça, typiquement, quand j'étais étudiant en art, voilà, exactement, le bouquin qui valait 250 francs, extrêmement cher, et je le couvrais, je gardais le petit truc, je les achetais à Paris, quand je venais à Paris, dans les magasins de manga. C'était un livre sur les recherches graphiques de Miyazaki pour faire Nausicaa, son célèbre film. Donc voilà, je les regardais, je regardais ses techniques, j'essayais de copier sa façon de faire, de mettre des couleurs, etc. Puis, tout est un petit peu mélangé. Il y a aussi des livres qui ne sont pas des bandes dessinées. Par exemple, il y a plein de livres sur Saddam Hussein. Là, je crois qu'à un moment, j'avais acheté toutes les biographies disponibles de Saddam Hussein.
Il y avait plein de livres chez vous quand vous étiez enfant?
Alors, pas du tout. Il n'y en avait absolument pas.
Justement, zéro, par exemple?
Zéro. Vraiment zéro. Et c'était un des grands mystères, disons, de mon enfance, parce que mon père était censé être docteur en histoire. Il allait de temps en temps à l'université donner des cours. Il n'y avait pas un livre à la maison. Je me disais, mais comment il donne des cours? D'où il prend ces informations? Ou qu'est-ce qu'il leur raconte? Parce que je ne l'ai jamais vu lire un livre. Et Internet, bien sûr, n'existait pas. Je dis ça pour les plus jeunes des auditeurs. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de Wikipédia, enfin, je sais pas, rien. Donc c'est un grand mystère. Il n'y avait pas de livre. Et ma mère aussi ne lisait pas. Elle achetait des livres à France Loisirs de temps en temps, mais elle les sortait pas de leur plastique. Alors pendant des mois, ils restaient en plastique. Donc voilà, il y avait pas les seuls livres qu'il y avait, c'était éventuellement ceux que je pouvais avoir par ma grand-mère bretonne qui m'envoyait des Tintins quand on habitait en Syrie. Mais c'était voilà. Et assez rapidement, j'étais le gars qui avait le plus de livres de la famille parce que je les accumulais au fur et à mesure du temps. Et
elle vous envoyait que des Tintins?
Elle m'envoyait que des Tintins. Ouais, ouais. Pendant longtemps, elle m'a envoyé que des Tintins. Et puis au bout d'un moment, je me suis mis moi-même avec mon argent de poche, à acheter des petites BD par-ci par-là. Et des romans et des.
Et vous,
et des
vous lisiez malgré cette absence?
Oui,
de
je lisais. Ah oui, 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 j'étais obsédé par. Très vite, je me suis passionné en fait pour les livres, pour l'évasion que ça pouvait provoquer, enfin quelque chose de très. En fait, je lisais par intérêt, comment dire, pas par intérêt. Disons, je lisais les trucs qui me provoquaient des sensations. Voilà, je lisais pas par curiosité pour l'art ou par la. C'est pour ça que j'ai un rapport à la littérature qui est unique, enfin à la lecture qui est surtout basée sur le plaisir. J'ai pas du tout la vision de lire un livre intelligent ou du fait que les BD ce serait moins bien que de lire des romans ou des trucs comme ça. Voilà, moi par exemple quand j'étais à 14 ans, je pense que j'avais dû lire 150 romans d'horreur hyper trash, tout Dean Erkuntz, tout Stephen King, etc. Alors, mes parents s'intéressaient pas à ce que je lisais, je pense que c'était pas du tout de mon âge, c'était des livres ultra violents et hyper trash. Mais voilà, mais par exemple, quand je devais lire un livre, je sais pas moi, d'Émile Zola ou un truc comme ça, j'avais beaucoup de mal parce que ça me...
Tombait des mains,
ben, j'arrivais pas à m'intéresser, ça me provoquait pas de... Je sais pas, je devais pas avoir le cadre culturel pour rentrer dedans ou comprendre comment on pouvait... ça me provoquait pas de sensation. Voilà, donc j'ai construit
c'est,
mon...
C'est toujours ça que vous cherchez dans les livres? Les sensations, ah ouais. Quelque chose de l'ordre du plaisir, de...
Oui, mais par exemple, aujourd'hui, je peux lire beaucoup plus facilement. Émile Zola, par exemple, c'est pas du tout... Mais j'ai commencé la lecture vraiment par cette recherche de sensations. Les images interdites, les situations interdites, les livres interdits, ou pour mon âge, que j'aurais pas le droit de lire parce que ce serait trop choquant, des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai que, même dans les livres que je fais, il y a cette... J'essaie de faire des livres qui ont un goût, quoi. Voilà, moi, ça m'est complètement étranger, l'idée de faire des livres, qui ne provoquerait pas de réaction. Je sais pas comment.
Quelle qu'elle soit, totalement inoffensif.
Inoffensif, peut-être. Oui, c'est ça. Mmh. C'est peut-être le. Ou c'est un peu comme les fromages pasteurisés à croûte rouge. Il y a pas. Je vous laisse dire le nom.
Non.
Mais le.
Mais
voilà, c'est
sans
vrai que
goût,
les.
Quoi.
Sans goût. C'est vrai que les fromages les plus. J'adore les métaphores gastronomiques, non. Mais les fromages qui ont le plus de goût, c'est ceux qui ont le plus de bactéries et de. C'est au lait cru, quoi. C'est ceux qui sont les plus toxiques, en
Donc
fait.
Donc vous aimez bien les livres avec les bactéries dedans.
Ah ouais, j'adore okay. les livres. Pour moi, c'est la vie. Voilà. C'est.
Là où il y a Maus d'Archpiegelman, et il y a aussi Hafez el-Assad.
Oui. Alors, c'est une cohabitation.
Ouais, vous avez des cohabitations super intéressantes, quand même.
Oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
Non, c'est vrai, c'est marrant. Tout à l'heure, je suis passée à côté de livres sur la psychanalyse et Gaston Lagaffe, par exemple.
Alors, oui, c'est marrant. Alors, tout à fait. Là, par exemple, la psychanalyse des adolescents, c'était hyper bien. Je l'avais lu quand j'étais jeune étudiant. Gaston Lagaffe, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, en fait. Cette intégrale. C'était pour voir un petit peu comment. On pouvait faire l'intégrale de l'Arabe du futur, qui est sortie il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Donc c'était plus un truc technique, plutôt que de...
Par exemple, pour continuer à parler des super compagnonnages, il y a Serge Tisseron, Tintin chez le psychanalyste, à côté de Sade.
Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, par exemple, voilà, Sade, typiquement, je me suis dit, est-ce que ça va avec les poches en bas ou pas? Et puis, je me suis dit, non, je vais quand même le garder. Alors, Sade, c'est typiquement le genre de livre qui provoque des sensations qu'on déteste ou qu'on... Mais... Ça ne laisse pas indifférent. Mmh. C'est-à-dire, ça tourne boule. Je ne sais pas si c'est un.
Si c'est un. C'est parfait, je crois même.
Et, c'est tout à fait et Serge Tisseron, je me rappelle, Tintin chez le psychanalyste, voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un livre dans lequel Serge Tisseron analyse Tintin.
Mais à partir de choses qu'il dit, parce que la psychanalyse, il y a des dires.
Et ben en fait, il considère Tintin comme des propos. Il analyse l'œuvre de manière psychanalytique. Et en fait, ce livre est extrêmement célèbre. C'est hallucinant à lire. Hein. Je vous le conseille, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait aussi le génie de Hergé et la fascination qu'a pu avoir Tintin. C'est qu'en fait, Hergé, inconsciemment, dans Tintin, raconte un secret de famille... Qu'il ignorait qu'il savait. Voilà, wow. Exactement. Et en fait, Serge Tisseron décortique tout ça en analysant tous les Tintins, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire, il va même jusqu'à montrer deux pages de Tintin qui se suivent et qu'on est censé regarder par transparence. Et il se passe, il y a quelque chose, il y a un sens qui apparaît entre l'image d'une page par rapport à l'autre. Bref, tout ça pour dire que. Il explique dans ce livre que Hergé descendait, en fait, avait un ancêtre qui était un fils illégitime du roi des Belges. Et il a fait ce livre qui est sorti. Et en fait, ça a été prouvé historiquement des années après que c'était vrai. Je vous recommande ce livre, incroyable.
Ouais,
mon rêve, c'est que Serge Tisseron fasse un livre sur mes BD. Je lance un petit appel. Oui, parce que quand on est auteur, on reçoit des épreuves de ces livres. Et j'avoue que j'ai pas assez d'amis pour tous les donner. Donc au bout d'un moment, ça s'accumule.
Quel problème de riche.
Non, mais c'est vrai. Mais c'est enfin, pas assez d'amis, pas assez de connaissances. Par exemple, il y a quelques années, j'avais fait la couverture du Petit Robert. Mm. Donc j'étais très fier. Mais alors, sauf qu'à chaque fois que je veux les offrir à quelqu'un, ils me disent « Oh, ben non, mais c'est un peu lourd. » Et donc, personne ne veut mon Petit Robert.
D'ailleurs,
vous allez partir avec.
Ouais, franchement, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a des livres dans votre maison, Riyad Satouf?
Eh ben, il y en a là-bas.
Ah oui, quand même.
Il y en a quelques-uns par là. Là, il y en a. Là, c'est pareil. Alors, j'avais eu des périodes monomaniaques où Je voulais faire un livre sur la conquête spatiale. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, j'avais contacté... parce que quand j'avais fait Les Beaux Gosses, en fait, j'ai toujours adoré la conquête spatiale et l'univers de ces types qui vont dans un endroit qui est la mort, en fait, étant donné que l'espace, c'est quand même la mort. Et je voulais faire une BD sur ce sujet, donc j'avais contacté à l'époque, je me rappelle... Jean-Pierre Aigneret, qui était un astronaute français, enfin plus astronaute, mais qui avait joué un tout petit rôle d'ailleurs dans Les Beaux Gosses. Je lui avais fait jouer le rôle du prof de sciences physiques, qui m'avait mis en contact avec le centre d'entraînement des cosmonautes à Cologne à l'époque, je me rappelle. Et en fait, je m'étais mis à lire plein de livres sur la conquête spatiale, je les avais tous achetés, donc ils sont tous là, et je les aime bien. J'ai jamais fait ce projet, je m'en suis voulu d'ailleurs, j'aurais peut-être dû parce que...
Et ce grand Pinocchio ?
Ah, ce grand Pinocchio, alors ça, c'est drôle. En fait, c'est un cadeau de Noël que j'ai eu. Je crois que c'était le dernier cadeau de Noël, un peu d'enfant, que j'ai eu. Mais il faut savoir que c'était un livre giga luxueux à l'époque.
Bah, il valait... toujours, quand même, non ?
Ouais. Et alors, je me rappelle, à quelle année il est sorti, on va regarder. Mais c'est la dernière fois que j'ai eu un cadeau de Noël. Après, j'ai... de ma famille, enfin de ma grand-mère même. Alors, attendez, en quelle année il est sorti ? Je ne sais pas, ça doit être 90.
Vous pouvez vous asseoir, il est tellement lourd.
Ah bah non, 95. Je me vieillis, mais en fait non, 95. Et là, je me rappelle, il valait 650 francs à l'époque. Et donc, c'est un super livre sur, pareil, les décors de Pinocchio, tout le travail préparatoire pour faire un dessin animé. C'était des livres techniques, un peu sur la création des univers. Un peu comme, c'est l'équivalent du livre sur Nausicaa, sur le film de Miyazaki. Toutes les recherches pour faire Pinocchio, etc. C'était incroyable. Je rêvais de faire ça comme métier.
Il y a un peu de cinéma quand même. Vous avez fait des très grands livres en fait, c'est marrant.
Ben non, mais là, ça c'est l'endroit des très grands livres parce que c'est les bibliothèques résistantes. Alors, tout ça là par exemple.
Les histoires de l'art aussi quand même.
Toutes les histoires de l'art, ça ils sont tous couverts. Ça, c'est ceux que j'avais quand j'étais étudiant en art appliqué. J'avais un ego surdimensionné donc j'estimais déjà que j'étais leur égal. Donc j'achetais les trucs de James Ensor, par exemple, puis je copiais ses techniques de peinture, j'essayais de faire des trucs avec des matières, des machins.
Ça vous a appris ?
Ah bah un petit peu, oui. Alors bon, évidemment, j'avais pas leur talent, mais Sacrum, je l'ai acheté beaucoup plus tard, ça. Il est trop bien celui-là. Attends, est-ce que je l'ai acheté ou c'est quelqu'un qui me l'a ramené ?
Mais il est couvert.
Mais non, mais il est trop génial celui-là parce que regardez, il est signé.
Wow.
C'est mon idole, Crumb. Vraiment, c'est mon... Attendez, je vais vous montrer un truc dont je suis encore plus fier. Moi, je m'en fous. Ça fait un peu bourgeois, mais j'ai quand même le montrer parce que j'aime trop ce dessinateur.
Bah, on en parle. Vous l'aimez, mais c'est tellement planqué.
On en parle. Bah oui, mais parce que justement, je veux pas que ça prenne le soleil.
Ah.
Look at that.
Oh.
Un petit dessin de Crumb, Monsieur Naturel.
Waouh.
Lui, c'est vraiment le plus grand.
Pourquoi ?
Parce que c'est en lisant les bandes dessinées de Crumb que j'ai découvert qu'on pouvait... parler de sexe. J'avais jamais capté que c'était autorisé, en fait.
Dans l'absolu ou dans les livres ?
Ben... dans les livres, non, si, mais de dessiner des... je sais pas, ses obsessions, ses perversions, je sais pas, j'étais... le fait que lui se l'autorisait, je me suis dit, ben, c'est autorisé. Je sais pas comment... Il c'est un grand génie. Maintenant, il est à la retraite, mais... je l'idolâtre totalement.
Vous regardez encore Goya, Vermeer ?
Ah bah oui.
Lucien Freud ?
Oui. Alors, bon, il a pris le... Lucien Freud, ce livre-là, il était méga culte. Ça, je me l'étais offert. Je l'avais acheté dans une librairie parisienne qui s'appelait Le Regard Moderne. C'était une librairie qui est située, et toujours une librairie qui est située rue Gilger. Et on le trouvait que là-bas. Il valait 600 francs aussi. Je me rappelle très très bien du prix. Ça me semblait ultra cher, 600 francs. Lucien Freud, génie. Hop. Tiens, je vais le cacher un peu parce qu'il attend que ça prenne le soleil. Toc.
On va rechercher la pile de livres que vous avez choisi de lire. commence par quoi ?
Eh bien...
Est-ce que ça a été difficile de choisir déjà ?
Bon, non, pas si difficile que ça. Je me dis, ce serait marrant de commencer par Moebius.
Allez.
Donc Moebius, qui est un des plus grands dessinateurs de BD qui ait jamais existé, qui est une de mes grandes idoles. Et qui...
Mieux que Crumb ?
Ben, un peu le même...
Même idole.
Même type d'idole. Alors, Crumb, il est plus, en contact avec l'être humain, enfin, dans son côté biologique, enfin, charnel. Moebius, c'est plus surréaliste, quoi. C'est le délire onirique et la puissance graphique, enfin, mais en même temps, ultra intelligent. C'est-à-dire capable de faire des histoires super puissantes, etc. Et donc, c'est vrai que il avait fait une bande dessinée qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado, qui s'appelle Arzak, et qui est une bande dessinée sans texte, qui est sa bande dessinée un petit peu légendaire, culte, qui raconte l'histoire d'un guerrier qui, comme ça, chevauche une sorte de ptérodactyle. Faut pas que je dise comme ça m'énerve, ça fait un peu parisien. Un guerrier qui chevauche un ptérodactyle et qui vit des aventures bizarres, incompréhensibles, étranges. Donc c'est vraiment un livre très puissant, justement, qui éveille, quand on veut faire de la bande dessinée, en tout cas éveille aux possibilités qu'offre la BD auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est vrai que l'édition de cette bande dessinée-là, il y avait un texte de Moebius qu'il avait écrit pour présenter ce livre. Alors, il n'y a pas de texte dans la BD, mais il a juste fait un petit texte de présentation.
Tu peux regarder vite fait la BD avant ?
Oui, bien sûr.
Donc, c'est 1975-1976.
Arzak, c'est ça, là. Regardez, l'homme est immense. Arzak, c'est un livre très court.
Oh.
Et voilà, c'est des aventures comme ça, avec ces êtres un petit peu ailés qui flotte dans l'éther, comme ça. Et alors ça, quand c'est sorti, ça a été un choc, parce que personne n'avait fait ce type de bande dessinée-là, et Moebius a influencé tous les dessinateurs du monde, on peut le dire, puisqu'étant donné qu'on a parlé tout à l'heure de Miyazaki avec Nausicaa, sa grande idole à Miyazaki, c'est Moebius. Ils ont fait d'ailleurs une exposition tous les deux à la Monnaie de Paris, peu de temps avant la disparition de Jean Giraud. Et donc, c'est
Jean Giraud égale Moebius.
Jean Giraud et Moebius, voilà, c'est son pseudo.
Alors, vous parliez d'un texte, donc dans la... C'est un texte de 75, du moment de l'apparition,
oui,
non ?
Ah ouais, ok. Ouais, à peu près. Et alors, j'adore ce texte parce qu'il est un petit peu différent de la façon de penser, enfin, d'aujourd'hui. Enfin, c'est marrant de voir ce qu'il avait écrit. Il dit « Je vais vous expliquer pourquoi je fais... » Alors ça, c'est Moebius qui écrit. Je vais vous expliquer pourquoi je fais des bandes dessinées sans scénario. Je vais vous raconter par le menu les affres de la création. Je vais vous dire une bonne chose. Je vais déballer, pire, avouer. En fait, c'est très simple. D'une part, il y a tous ces raconteurs d'histoires. À chute, à exploit, à message, à morale, à gag. 1. À chute. C'est facile, il faut contredire en une image tout ce qui a précédé. Le problème vient de la qualité de la contradiction. Plus l'affirmation de départ est puissante et plus la pirouette finale sera goûtée. On voit à quel point le procédé est clair, combien également il est artificiel. 2. À exploit. Donner une gamme de pouvoir à un type ou un groupe et le mettre en présence d'un autre type ou groupe ou élément dont les gammes de pouvoir sont légèrement supérieures en apparence. L'astuce consiste à donner le gain au plus faible. Le choix de l'astuce sera le message politique-moral de l'auteur. 3. À message. Il y a toujours un message, mais l'auteur peut estimer que la qualité du sien est telle qu'elle doit prendre valeur de squelette et même parfois muscles, nerfs et sang. C'est parfois vrai, surtout pour les minorités culturelles. 4. À morale. On retrouve les mêmes structures que pour l'histoire à chute, mais pas spécialement dans la contradiction, bien que le procédé soit courant. 5. À gag. Chaque phrase reconstitue et compresse les 4 précédents exemples avec des dosages variés. Puisque le message politique est implicite, pourquoi le solliciter ? Pourquoi attendre la fin pour se contredire ? Pourquoi donner la victoire au plus faible ? Pourquoi avoir peur d'être seul dans le noir et crier au secours ? Pourquoi être si anxieux d'avoir raison ? Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flamme d'allumette soufrée. Moebius.
Arzak est une sorte de pavé hermétique et énigmatique sans aucune explication, sans mode d'emploi, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une excuse, il n'y a pas un regret, vous voyez, ça s'impose comme une sorte d'artefact brutal, et comme un menhir minéral. En plus, il y a un accent très fort qui est mis à la forme, c'est-à-dire une forme très libre par rapport au canon de la bande dessinée. C'est plutôt une sorte de mixage de toute l'histoire de l'art avec la gravure, avec le naïf, la forme savante, les modelés. Vous voyez, toutes ces choses-là, je les ai injectées dans la mesure de mes moyens, bien entendu, hein, dans une histoire muette qui est sortie comme ça, sans explication, dans Métal.
J'adore ce texte.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce texte ?
Ce que j'adore dans ce texte, c'est que j'ai eu énormément de succès avec l'Arabe du futur à partir du moment où j'ai fait une histoire qui a une forme de maison avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres et une cheminée pour la fumée. Et ce texte m'avait profondément marqué parce que c'était, il emmenait très loin dans une sorte de liberté. C'est-à-dire, c'était un appel à la liberté, de dire, tu peux raconter ce que tu veux, tout est acceptable. Et ça me fait rire que des années après, je me rends compte en le relisant que finalement, après avoir fait tout le tour, c'est marrant de rentrer à la maison, en fait, quelque part. Voilà.
Mais parce que c'est difficile d'atteindre la simplicité qui est raconter une histoire avec une forme de maison et des fenêtres pour regarder les arbres et une porte pour rentrer dedans ?
Moi, j'ai la sensation que c'est très difficile. Ça peut être très, très difficile quand on est jeune, notamment. En tout cas, si on n'essaye pas de faire des choses complètement surréalistes, extrêmes, trop libres, etc., quand on est jeune, enfin, on peut le faire toute sa vie, mais je pense que ça ressemble au corps, quoi. Et on a besoin de ça pour après, peut-être, se structurer et... Je sais pas, je sais que ce texte, là, quand il dit une histoire en forme d'allumette soufrée, je voyais exactement ce qu'il voulait dire. Et justement, ça peut être des aspects de l'histoire, quand on écrit une histoire, en effet, de ne pas se laisser non plus trop emporter par le côté ordonné, structuré, etc. C'est de se dire qu'on peut tout à fait, à un moment, faire n'importe quoi, partir ailleurs, complètement... Je me rappelle, dans La Nuit de Druillet, il y avait un moment... C'est une bande dessinée qu'il avait faite. Et pile au moment de cette bande dessinée, Druillet perd sa femme qui meurt d'un cancer. Et la bande dessinée change complètement et il se met à mettre des photos de sa femme et à faire une ode à sa femme dans la suite de l'histoire, alors que l'histoire racontait complètement autre chose. Donc quelque chose de très puissant et libre. Voilà, c'est vrai que c'est un... Voilà.
Il y a un deuxième choix vers lequel vous iriez naturellement ?
Alors, j'aimais bien Saint-Exupéry, pour être un petit peu relou. Parce qu'on a un petit peu trop rigolé. Donc maintenant, nous allons un petit peu revenir un petit peu aux fondamentaux, n'est-ce pas, avec Antoine de Saint-Exupéry, qui est une autre forme. Et alors, ce qui est très... C'est drôle parce que Saint-Exupéry, je crois, était aussi une idole de Moebius. De par le fait déjà qu'il a énormément dessiné son personnage comme ça qui est sur son ptérodactyle, il y a beaucoup de références au personnage du pilote solitaire dans son avion qui explore des endroits bizarres. C'est-à-dire que Arzak, qui est ce personnage muet qui contemple en fait la beauté du monde et qui voit les choses se passer sous lui en essayant de les éviter, etc. Moi, ça me fait beaucoup penser aux histoires de Saint-Exupéry qui survole le désert et qui se pose en haut des hauts plateaux et qui voit les météorites sur le sol. Enfin, je sais que j'ai lu Saint-Exupéry, j'ai été amené à lui par le fait que j'étais passionné par l'aviation et que je rêvais de devenir pilote d'avion, mais alors ça coûtait très très cher. J'étais dans un milieu qui permettait pas forcément d'aller vers ça. Et je connaissais Le Petit Prince, qui avait marqué très enfant le début, puis un petit peu ennuyé quand même. Et avec ses aventures de pilote, etc. Et Terre des Hommes, c'est un de mes romans, enfin un de mes livres préférés. Et c'est dans ce livre que Saint-Exupéry raconte un peu tout son parcours et toute l'histoire de l'aéropostale et l'histoire de ses amis, Mermoz, Guillaumet, etc. Mmh. Puis son parcours. Et j'aimais beaucoup aussi le fait que ce livre avait été aussi écrit parce qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il avait tout mis en se disant ça va cartonner, il faut que
ça a marché.
Ça, et ça a été un énorme succès. Mais il avait toujours des problèmes d'argent après. Enfin, j'adore le personnage de Saint-Exupéry. Des fois, je rêverais d'être un peu une réincarnation de lui. Je sais pas comment dire. Je l'adore. Enfin, le fait qu'il ait une drôle de tête et tout. Puis, il était tellement mal dans sa peau que ça. Et en même temps, on sent qu'il a une envie de vivre incroyable. Enfin, il y a quelque chose de. Le fait qu'il ait deux métiers, à la fois pilote et écrivain, il y avait vraiment un côté complexé dans le sens de se dire. Moi, je suis un militaire, je suis un pilote, je suis pas un artiste, mais en fait, il mourait d'envie d'être un écrivain, Germano Printemps, etc. Mais il se le permettait pas, quelque part. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est mort, mais bah, j'aime beaucoup, et j'aimais beaucoup les passages où il racontait la vie avec le au contact des tribus morts qui vivaient à côté de la base de Cap Juby, où les avions, en fait, ils venaient de France pour aller jusqu'en Afrique, et ils faisaient une escale, les avions de la poste, de l'aéropostale, faisaient une escale à Cap Juby, dans un fortin espagnol. Ils avaient un petit hangar à côté, juste pour ravitailler les avions. Et ce fortin espagnol, qui était situé donc au Maroc, était entouré par des tribus morts dissidentes qui s'en prenaient aux pilotes qui tombaient en panne et qui se posaient dans le désert. Donc ils attaquaient les avions, ils prenaient les pilotes en otage, ils demandaient de l'argent, des fois ils les torturaient, etc. Donc ils racontent toutes ces aventures-là. Et il y avait un passage dans Terre des Hommes qui m'avait beaucoup marqué, c'était le passage où Saint-Exupéry raconte que il y a un esclave qui appartenait aux morts et qui le supplie de le sauver. Et je me rappelle, moi, à l'époque où j'ai lu ce livre, je pensais que l'esclavage, c'était... Je sais pas, je devais avoir 15-16 ans. À l'époque, on n'apprenait pas du tout l'histoire de l'esclavage. On n'apprenait absolument pas... Je pensais que c'était vieux de plusieurs siècles. Et on n'apprenait absolument pas, même encore aujourd'hui, c'est très méconnu, l'esclavage arabo-musulman. Et j'avais découvert, dans Saint-Exupéry, qu'à cette époque-là, dans les années 30, il y avait encore des esclaves. Alors aujourd'hui, on sait que c'est encore... Il y en a encore aujourd'hui, mais... Moi, je pensais que ça n'existait plus, en fait. Et voilà, et c'est tout un passage où il raconte, je peux vous le dire, si vous voulez.
Ah bah oui.
Alors, donc c'est à peu près au milieu du livre. Cache-moi dans un avion pour Marrakech. Chaque soir, à Juby, cet esclave des morts m'adressait sa courte prière. Après quoi, ayant fait son possible pour vivre, il s'asseyait les jambes en croix et préparait à monter. Désormais paisible pour un jour, s'étant confié, croyait-il, au seul médecin qui put le guérir, ayant sollicité le seul Dieu qui put le sauver. Ruminant désormais, penché sur la bouilloire, les images simples de sa vie, les terres noires de Marrakech, ses maisons roses, les biens élémentaires dont il était dépossédé. Il ne m'en voulait pas de mon silence ni de mon retard à donner la vie. Je n'étais pas un homme semblable à lui, mais une force à mettre en marche, mais quelque chose comme un vent favorable qui se lèverait un jour sur sa destinée. Pourtant, simple pilote, chef d'aéroport pour quelques mois à Cap Juby, disposant pour toute fortune d'une baraque adossée au fort espagnol, et dans cette baraque d'une cuvette, d'un broc d'eau salée, d'un lit trop court, je me faisais moins d'illusions sur ma puissance. Ah, vieux Barque, on verra ça. Tous les esclaves s'appellent Barque. Il s'appelait donc Barque. Malgré 4 années de captivité, il ne s'était pas résigné encore. Il se souvenait d'avoir été roi. Que faisais-tu, Barque, à Marrakech ? À Marrakech, où sa femme et ses 3 enfants vivaient sans doute encore, il avait exercé un métier magnifique. J'étais conducteur de troupeaux et je m'appelais Mohamed. Les caïds là-bas le convoquaient. J'ai des bœufs à vendre, Mohamed, va les chercher dans la montagne. Ou bien, j'ai 1000 moutons dans la plaine, conduis-les plus haut vers les pâturages. Et Barque, armé d'un sceptre d'olivier, gouvernait leur exode. Seul responsable d'un peuple de brebis, ralentissant les plus agiles à cause des agneaux à naître et secouant un peu les paresseuses, il marchait dans la confiance et l'obéissance de tous. Seul à connaître vers quelle terre promise il montait, seul à lire sa route dans les astres, lourd d'une science qui n'est point partagée aux brebis, il décidait seul, dans sa sagesse, l'heure du repos, l'heure des fontaines. Et debout, la nuit dans leur sommeil, pris de tendresse pour tant de faiblesse ignorante, et baigné de laine jusqu'aux genoux, Barque, médecin, prophète et roi, priait pour son peuple. Un jour, des Arabes l'avaient abordé. « Viens avec nous chercher des bêtes dans le sud !» On l'avait fait marcher longtemps, et quand après 3 jours il fut bien engagé dans un chemin creux de montagne, aux confins de la dissidence, on lui mit simplement la main sur l'épaule, on le baptisa Barque et on le vendit. Alors, il raconte ça, l'histoire de ce pauvre gars, et c'est hallucinant à lire. Alors, je lirai bien encore plus longtemps, hein, mais c'est hallucinant. Et en fait, au final, il le rachète à ses maîtres, il se cotise avec les autres pilotes pour le racheter, tout pour lui offrir sa liberté. Mais c'est hallucinant comme histoire. En fait, ça parle aussi du monde moderne et de la, comment dire, de la confrontation entre les cultures, les traditions, l'ultra-violence de la vie. Enfin, je sais pas, c'est... Quand on lit ça, quand on a 16 ans, c'est un... Moi, je...
Vous l'avez relu depuis ? C'est un texte de 39, mais...
Je le lis tout le temps.
C'est vrai ?
Ouais, c'est un de mes livres préférés. J'adore.
Vous relisez régulièrement ?
Oui. Et j'avoue que je lis de moins en moins de nouveaux trucs. Mais c'est peut-être un signe de la vieillesse, je sais pas. Mais je relis. Alors, Terre des Hommes, c'est vraiment... J'adore ce livre. Alors, c'est pas forcément le livre le plus aimé de Saint-Exupéry. Je les aime tous, hein. J'adore Pilote de guerre, etc., Courrier Sud. Mais celui-là, on a l'impression qu'il a voulu faire justement un livre en forme de maison avec des petites fenêtres. Et alors que Courrier Sud, c'est plus en forme d'allumette, plutôt. Voilà. Et Le Petit Prince, c'est complètement surréaliste. Mais il y a vraiment un lien, je trouve, entre Moebius et Saint-Exupéry. Et...
Ben justement, pour faire des liens, vous avez évoqué plusieurs fois Tintin.
Oui, Tintin. Alors, Tintin,
il y a
voilà.
Ça touche.
Tintin, alors ça aussi, Hergé, c'est un auteur... Genre, j'aime tout dans Tintin, tout ce qui ne va pas et tout ce qui va bien, parce que justement, on en a parlé tout à l'heure avec Serge Tisseron, il raconte autre chose que ce qu'il croit raconter. Mmh. Et c'est toujours ce que j'ai adoré, parce qu'on le ressent, en fait, quand on lit Tintin, inconsciemment.
Dès les premiers temps, dès les premiers albums que votre grand-mère, elle vous envoie quand vous êtes jeune adolescent.
Bah oui, enfin on ressent qu'il se passe quelque chose, que c'est comme un rêve qui est raconté. Ouais.
Et avec les incongruités.
Voilà, il y a rien ne va en fait dans Tintin. Enfin, rien ne va. C'est-à-dire, c'est vraiment pour le coup une sorte de maison enflammée dans laquelle on est et on. Les personnages ne vieillissent pas, ils ont toujours le même costume, il n'y a pas de filles, ou quasiment pas. Et alors, si Serge Tisseron alors, le raconte très bien dans son livre, où il raconte que la femme, le personnage féminin, en fait, dans Tintin, c'est le professeur Tournesol. Et ouais. C'est la femme du capitaine Haddock. Et d'ailleurs, en fait, il explique toute la symbolique, qu'en fait, ils vivent ensemble et que Haddock protège Tournesol est dans la lune. Il y a tout un essor de... Mais c'est incroyable. Voilà, tout ça pour vous encourager à dire...
Vous vendre encore le Tisseron.
Et donc, tout ça pour dire que...
Alors, vous avez ouvert quoi comme album, Riyad Sattouf?
J'ai ouvert Le Secret de la Licorne, qui est
édition qui date, non? Je ne sais pas, trop jolie.
Ouais, elle est trop belle parce que j'ai eu du succès en tant qu'auteur et que je me suis racheté les éditions. Non, mais ce n'est pas une édition originale, ça, parce qu'en fait... C'est des facsimilés, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils refont le livre avec la tête exacte qu'il avait quand il est sorti. D'ailleurs, c'est marrant que vous le notiez, Marie, parce que vous remarquez que les livres à l'époque étaient plus beaux que ceux qui sont faits aujourd'hui.
Je ne sais pas si je m'aventurerais à dire ça. En revanche, il est très beau.
Ben voilà. Ben si, parce que vous avez remarqué sa beauté, alors qu'à l'époque, c'était le livre moyen qui sortait. Ah.
Et donc, je sais pas, les couleurs et tout, elles sont super belles à l'intérieur. Ouais. Le papier est super beau.
Le papier a bien jauni, parce que je l'ai depuis longtemps et que je fumais à l'époque. Et donc, ça a fait un... Enfin bon, bref, voilà. Et ça, c'est un des premiers livres que j'ai lu enfant. Ça, c'est ma mère qui me l'avait offert. D'ailleurs, avant, il y avait l'autocollant Euromarché avec 10 francs 50. Et surtout, c'est dans ce livre. C'est très drôle. Dans ce livre, en fait, le capitaine Haddock devient complètement fou. Parce qu'à un moment, il se rend compte qu'il a un ancêtre qui est corsaire. Et qui s'appelle. Donc le François le Chevalier de Haddock, et il commence à avoir une sorte de délire hypnotique où il rejoue ce que faisait son ancêtre et apparaît dans l'histoire
l'ancêtre en question.
Voilà, Tintin vient sonner chez le capitaine Haddock, parce qu'ils entendent des bruits. Il y a la concierge a appelé Tintin et lui dit oui capitaine. Il est bizarre, il répond pas, c'est bizarre. Mais peut-être est-il malade. Malade, c'est bien possible. Après tout, il y a eu de la lumière chez lui toute la nuit. Il faut aller le voir tout de suite. Alors il monte, il sonne, il répond pas. Là, il y a personne. Si, il doit être là. J'entends du bruit. Capitaine, capitaine, c'est Tintin. Ouvrez. Toc, toc, toc. Oui, il y a rien et tout. Ouais, toujours pas de réponse. Boum, boum, boum. Alors il tape. Un pas de plus et je fais tout sauter. Ça, c'est le capitaine Haddock qui parle de l'autre côté de la porte. Et si j'appelais la police, dit la concierge. Non, non, surtout pas. Allez plutôt chercher un serrurier. On dirait. Il part tout seul, ça devient inquiétant. Ah voilà le serrurier, ça va? Mais non, rien à faire, le verrou est poussé. Il faut enfoncer la porte, j'en prends toute la responsabilité. Une, deux, crac, et là ils ouvrent. Et là il y a Haddock, qui est déguisé en corsaire et qui a l'air complètement taré, qui est avec son sabre.
et qui fait au large, Forban, au large, mais capitaine, au large, mercenaire, cornichon, sapajou, pirate, flibustier, cornemuse, traîne potence, victoire, ils ont battu en retraite, et yo ho ho, une bouteille de rhum. Mon nom du ciel, mais que signifie cette comédie, capitaine? Une comédie, c'est pas une comédie, venez, vous allez comprendre. Vous voyez cet homme, et là on voit un tableau
ouais.
Où c'est lui. Oui, c'est un de vos ancêtres, et puis. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, très intrigué par cette histoire de bateau, je me suis brusquement rappelé qu'il y avait au grenier un très vieux coffre ayant appartenu à cet ancêtre. Voilà ce coffre. Et dans ce coffre, outre quelques objets, ce chapeau, ce sabre d'abordage, j'ai découvert, je sais, un trésor, ou le plan d'un trésor. Non, pas un trésor, mais presque. De vieux manuscrits, de la main du chevalier de Haddock. Regardez, j'ai commencé à lire ça hier soir, j'ai lu toute la nuit. Mémoire de François, chevalier de Haddock, capitaine de la marine du roi, commandant le vaisseau la licorne. Et je lisais encore ce matin lorsque vous êtes entré, c'est pourquoi vous m'avez trouvé un peu surexcité. Mais c'était tellement passionnant, je vais vous raconter cela. Nous sommes en 1698, la licorne, un fier vaisseau de troisième rang de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île Saint-Domingue dans les Antilles. Paf, et ensuite on part dans le délire. Et c'était génial parce que c'est ce livre, c'est un truc que j'ai souvent utilisé en BD, qui est la narration un petit peu de la voix off qui vous lance dans une autre histoire. Et j'ai découvert en lisant cet album que ça c'était possible, et surtout cette espèce de jeu entre les ancêtres et ce qu'on vit nous et comment ils nous ont influencés. Tisseron en parle très très bien, il fait tout un truc sur ce justement sur ces albums là dans son livre. Et c'est drôle parce que des années après, genre 15 ans après, moi j'ai découvert que j'avais un ancêtre qui était corsaire aussi, comme le capitaine Haddock, qui était un corsaire qui avait été avec Turcouf et qui s'appelait Vincent Tranchant, et dont j'ai retrouvé des petits restes de feuilles, de papier, de petites maquettes dans la maison de ma grand-mère. Et c'était un secret familial, donc je me suis toujours identifié au capitaine Haddock. Et alors quand j'étais enfant, pour moi il était adulte, et maintenant j'ai l'impression que je suis plus vieux que lui.
Non,
ça va.
Il est clairement plus vieux que vous encore. Ouais, il est plus vieux que nous tous, je pense.
Vous êtes sympa, Marie, mais regardez, qu'est-ce que je vois là? Capitaine Haddock, il n'est pas touché par le stress oxydatif, alors qu'il picole. Il n'a pas du tout de barbe blanche.
C'est quoi le stress oxydatif?
C'est le fait qu'on vieillit tous et que.
On a des cheveux blancs,
des rides, etc. Lui, regardez, moi, vous lui donneriez quel âge au Capitaine Haddock? Moi, je dirais quand même 42, 43, non? Plus que ça?
Oh non, 53, 54, 55.
Mais on peut avoir les cheveux...
Il a quand même un petit peu de coupe rose, hein.
Ici. Ouais, c'est vrai, mais c'est parce qu'il est alcoolique.
Il est quand même... En tout cas, je pense qu'il est plus vieux que vous.
Encore, un peu, vous pensez?
Pas hyper longtemps, si je peux me permettre.
Merci Marie, désolé. Je vous réinviterai. Ah bah justement, vous me faisiez penser à la concierge, attendez, regardez.
J'ai le même bleu et tout.
Ouais, c'est ça. Faut stress oxydatif, attention.
Mais j'ai plus de cheveux blancs que la concierge de Capitaine Haddock.
Non, mais je plaisante, mais vous avez raison. Mais en fait, c'est mon idole, Capitaine Haddock. J'aimerais bien être un peu comme lui. Je trouve qu'il est hyper sympa. Un peu,
donc, en gros, si on vous suit, Riyad Sattouf, vous aimeriez bien être à la fois la réincarnation d'Antoine de Saint-Exupéry, fit Capitaine Haddock.
Je suis fit, hein, quand même. Non, je suis fit, je suis pas fit de Capitaine
Haddock. Je parlais
Haddock.
De fit croisement.
Ah, fit, croisement. Ah, fit, anglicisme, d'accord. Moi, je parlais de fitness. Regardez, il a un peu du ventre.
Bon, allons vers des choses non pas plus sérieuses, mais autres, on va dire.
Non, et écoutez...
Parce que vous avez, quand on vous a proposé de choisir 5 livres étapes, oh, les gens, ils s'en emparent, en fait, dans ces bibliothèques un peu... Chacun, non, mais chacun a, chacune à sa manière. Et ça peut être à la fois des livres importants dans leur vie, des livres qui ont jalonné leur parcours de lecteur et de lectrice. Et vous, au milieu de tout ça, il y a eu Alice Miller, Carl Jung.
Ah oui, c'est vrai. Oui, et tout est relié à Moebius, en fait. Parce qu'en fait, c'est un livre que je n'ai pas choisi non plus de vous lire, parce que je ne l'ai pas, parce que j'ai prêté ce livre, qui était un livre que j'avais quand j'étais plus jeune, qui était Les entretiens de Moebius avec Numa Sadoul, qui est un grand journaliste qui avait fait aussi des entretiens avec Hergé, et qui est un livre que j'avais lu quand j'étais ado, et dans lequel Moebius parlait de toutes ses lectures et de tout ce qu'il avait marqué, de tout ce qu'il aimait, etc. Et comme j'étais fan, bah, j'ai lu tout ce qu'avait lu Moebius, je lisais les mêmes trucs que lui, en me disant je vais aspirer son pouvoir énergétique et connaître tout. Et voilà. Et il parlait d'Alice Miller comme étant une de ses lectures qu'il avait profondément marquée. Et en effet, j'ai lu Alice Miller donc suite à ce livre, et qui est une psychothérapeute allemande qui avait... Alors, moi, je suis entré dans l'univers de la psychanalyse, de la psychologie, des études
intérieure, comme ça, vraiment par moi-même, sans aucune logique. Je suis entré par Alice Miller et aussi par Jung, parce que j'ai adoré, enfin j'avais lu Freud aussi, mais j'ai adoré Jung parce qu'il était plus fou un petit peu que Freud. Freud était beaucoup plus scientifique, entre guillemets, disons cartésien, je sais pas comment...
C'est quand dans votre parcours que vous commencez à lire des textes sur la psychanalyse ?
Quand j'étais étudiant en art appliqué, vers 19 ans. Et j'ai commencé à lire ça. Et Alice Miller, alors je vais peut-être pas vous lire un passage d'Alice Miller parce que c'est un petit peu austère. Enfin, austère pas forcément, mais disons qu'il faudrait lire longtemps pour voir un peu de quoi elle parle. Mais c'est par elle que j'ai découvert que ce qu'on vivait enfant influençait l'adulte qu'on était devenu plus tard. Alors,
c'est ça, pourtant Freud quand même.
Oui, mais j'ai lu Alice Miller avant Freud. Ah. Et en fait, après, j'ai découvert Freud, évidemment. Alors, elle est contre la psychanalyse. Alors, elle a fait parfois un peu... elle n'a pas que des amis. Je ne sais pas comment elle considérait son travail. Mais en tout cas, ça avait été des grands succès, ses livres, de par le fait qu'elle expliquait comment on pouvait croire qu'on élevait ses enfants bien alors qu'on leur faisait du mal. Et elle avait fait un livre très célèbre qui s'appelait « C'est pour ton bien ». Dans laquelle, justement, elle parlait de l'enfance des dictateurs et l'enfance des criminels. C'était quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait avant. Elle expliquait comment, par exemple, Hitler avait été un enfant battu par son père, torturé même par son père, et qui avait fait... elle estimait que c'était aussi le fait qu'il était ultra-violenté dans son enfance, qu'il était devenu cet être ultra-cruel, démoniaque, sans pitié. Et c'est marrant parce que, dans le film de Michael Haneke, Le ruban blanc, on voit un peu la même chose. Et alors pour moi, ça avait été une révélation de lire ça. Ça m'avait profondément marqué. Je vous recommande de lire L'avenir du drame de l'enfant doué d'Alice Miller. Et puis c'est pourtant bien, deux livres super géniaux.
Quand même, dans le dernier tome de L'Arabe du futur, il y a une présence importante même de cette pensée-là ou de cette façon de voir la vie. Qui est orienté par l'idée de la psychanalyse, quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, ça fait un petit peu lieu commun de parler ça. Même quand je l'ai raconté dans L'Arabe du futur, j'étais un petit peu gêné de parler de mon rapport avec une psy. Mais je sais que... Parce que ça fait un peu lieu commun du mec qui écrit un livre en France, il raconte sa psychanalyse, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu relou. Je voulais quand même le raconter parce que j'étais pas du tout d'un milieu culturel qui aurait dû m'amener à pouvoir aller voir ce type de personnes ou rechercher ce type de prise de conscience. Par exemple, moi, dans ma famille, le fait d'aller, que ce soit maternelle, c'est encore pire, les Syriens, c'est encore pire que ça, ça n'existe vraiment pas du tout. Mais je sais que j'avais déjà parlé de ce sujet-là avec ma grand-mère bretonne, par exemple, de la psychanalyse et tout. La seule réponse que j'avais à tout le monde, c'est on n'est pas fous dans la famille, on va pas avoir, c'est les fous. Et donc je sais que ça a été une grande révélation pour moi, le fait de pouvoir me rendre compte que ce qu'on avait vécu quand on était enfant pouvait nous empêcher de faire des choses quand on était adulte, ou que ça pouvait nous orienter ou nous bloquer, ou faire en sorte que des fois on revivait toujours les mêmes choses, etc. Voilà, c'était des... Donc j'en ai parlé en effet dans L'Arabe du futur.
Et vous faites plus qu'en parler, vous trouvez des solutions graphiques pour évoquer ça. C'est-à-dire que vous trouvez des solutions graphiques pour dire comment est-ce qu'on peut être occupé par certaines figures, occupé concrètement, que notre psychisme il est envahi par certaines figures. Vous trouvez des solutions graphiques aussi pour rendre compte de l'impact de certaines phrases. C'est-à-dire que c'est pas seulement je raconte ma psychanalyse, c'est aussi même par le dessin imbriqué au récit, il y a cette ouf que d'un seul coup, justement, ça devient autre chose, quoi.
Et oui, mais c'est vrai que c'est très étrange parce que quand on parle de psychanalyse, en tout cas quand on lit les livres de Freud, moi j'avais l'impression que c'était très quelque chose d'évidemment de ultra intellectuel, super complexe dans le. Et moi, ce que j'avais fait avec ma psy, qui avait été un peu, enfin se présentait un petit peu comme jungienne, alors il y avait quelque chose de très visuel. Je sais pas comment. C'est très étrange parce que Jung, qui était le disciple de Freud avec qui il a rompu, est quand même, comment dire, entre guillemets, controversé lui aussi. Bon, ils sont tous controversés, Freud aussi, tout le monde est controversé là-dedans, mais lui, il était controversé, notamment que Freud ne l'aimait, enfin, aimait pas son appétence pour l'occultisme, etc. Mais pour le coup, moi, quand j'avais fait ça avec ma psy, j'avais vraiment eu des sortes de visions oniriques bizarres qui m'avaient parlé, qui m'avaient orienté, en fait. Ce qui n'avait rien de surnaturel, mais je parlais avec elle et la nuit, je faisais des rêves hallucinants que j'ai plus jamais refaits, que j'ai dessinés d'ailleurs dans le tome 6 de L'Arabe du futur, mais qui étaient stupéfiants de sens et de...
Donc moi, ma vérité intérieure, j'aurais tendance à dire aussi, il y a une forme de vérité dans cette lecture symbolique de l'esprit, enfin je sais pas, de qui est différente de celle de Freud, quoi. Voilà. Et donc j'avais choisi dernier truc, si vous voulez, je vous le lise.
Ah, si, je me suis dit vraiment quel art de la transition radiophonique, c'est dingo.
Voilà. Et j'avais choisi le livre de Jung qui s'appelle Ma vie, qu'il a moyennement écrit, je crois, qui a été écrit aussi par ses assistantes, etc. Et où il raconte tout son parcours, qui est génial à lire, même si on connaît pas sa pensée. Il raconte plein d'anecdotes et on va voir exactement tout ce qui fait problème avec Freud, parce que Jung vraiment s'est intéressé à ce qu'on appelle la parapsychologie, mais il était vraiment limite, quoi, dans le fait de dire qu'il y avait quelque chose après la mort. Il n'osait pas vraiment le dire, il essayait de le dire comme quelque chose de psychologique, d'inconscient, avec l'inconscient collectif, etc. Mais on sentait qu'il était extrêmement tenté d'aller vers ça. Et donc, il raconte quand il a eu un infarctus. Vous allez voir, c'est très marrant. Enfin, très marrant. Non, c'est pas du tout marrant, mais en fait, c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo non plus. Donc, c'est à la fin du livre. Ça s'appelle Vision. Il dit « Au début de l'année 1944, je me fracturais le pied et peu après, j'eus un infarctus cardiaque. En état d'inconscience, j'eus des délires et des visions. Ils doivent avoir commencé alors qu'en danger de mort, on m'administrait de l'oxygène et du camphre. Les images avaient une telle violence que j'en conclus moi-même que j'étais tout près de mourir. » Mon infirmière me dit plus tard « Vous étiez comme entouré d'un halo lumineux. » C'est un phénomène qu'elle avait parfois observé chez les mourants. Là déjà, c'est un petit peu bizarre de dire, mais bref. J'avais atteint la limite extrême et je ne sais si c'était un rêve ou une extase. Quoi qu'il en soit, des choses fort étranges pour moi commencèrent à se dérouler. Je croyais être très haut dans l'espace cosmique. Bien loin, au-dessous de moi, j'apercevais la sphère terrestre baignée d'une merveilleuse lumière bleue. Je voyais la mer, d'un bleu profond, et les continents. Tout en bas, sous mes pieds, c'était Ceylan et devant moi s'étendait le subcontinent indien. Mon champ visuel n'embrassait pas la terre entière, mais sa forme sphérique était nettement perceptible et ses contours brillaient comme de l'argent à travers la merveilleuse lumière bleue. À certains endroits, la sphère terrestre semblait colorée ou tachée de vert foncé, comme de l'argent oxydé. À gauche, dans le lointain, une large étendue, le désert jaune de l'Arabie. C'était comme si là-bas, l'argent de la terre avait pris une teinte rougeâtre. Puis, ce fut la mer, rouge, et bien loin, derrière, comme à l'angle supérieur gauche d'une carte, je pus encore apercevoir un coin de la Méditerranée. Mon regard était surtout tourné dans cette direction, tout le reste semblait imprécis. Évidemment, je voyais aussi les sommets enneigés de l'Himalaya, mais tout y était brumeux et nuageux. Je ne regardais pas à droite, je savais que j'étais en train de quitter la terre. Plus tard, je me suis renseigné et je demandais à quelle distance de la Terre on devait se trouver dans l'espace pour embrasser une vue d'une telle ampleur, environ 1500 km. Le spectacle de la Terre vu de cette hauteur était ce que j'avais vécu de plus merveilleux et de plus féerique. Après un moment de contemplation, je me retournai. Je m'étais tenu, pourrait-on dire, le dos tourné vers l'océan Indien, le visage vers le nord, alors il me sembla que j'opérais une version vers le sud. Quelque chose de nouveau entra dans mon champ visuel. À une faible distance, j'aperçus dans l'espace un énorme bloc de pierre, sombre comme une météorite, à peu près de la grosseur de ma maison, peut-être même plus gros. La pierre planait dans l'univers et je planais moi-même dans l'espace. J'ai vu des pierres semblables sur la côte du golfe du Bengale. Ce sont des blocs de granit brun noirâtre dans lesquels parfois des temples ont été creusés. Ma pierre était aussi un de ces sombres et gigantesques blocs. Une entrée donnait accès à un petit vestibule, à droite sur un banc de pierre, un Indien à la peau basanée était assis dans la position du lotus, complètement détendu, en repos parfait. Il portait un vêtement blanc. Ainsi, sans mot dire, il m'attendait. Deux marches conduisaient à ce vestibule. À l'intérieur, à gauche, s'ouvrait le portail du temple. D'innombrables coupelles, creusées dans des niches et remplies d'huile de coco où brûlaient des mèches, entouraient la porte d'une couronne de petites flammes claires. Cela, je l'avais déjà vu réellement à Candy, dans l'île de Ceylan. Lorsque je visitais le temple de la danse sacrée, plusieurs rangées de lampes à huile de ce genre entouraient l'entrée. Bref, là, il raconte une expérience de mort imminente, enfin de vision qu'il a quand il a. Et alors, j'adore ce passage parce que on y trouve aussi le Moebius, 2001 l'Odyssée de l'espace, avant que ce soit écrit. Et aussi cette espèce de. Le fait d'oser mettre dans un livre. Que lui, ce scientifique aussi, à qui on doit pas forcément les meilleurs trucs peut-être de la société moderne, mais c'est lui qui a découvert les archétypes. La société de consommation, disons les livres qui touchent sans différence, Star Wars, etc. viennent de Jung, en fait. C'est lui qui a défini les différents stéréotypes de personnages et tout. Et je trouve que le fait de raconter cette vision qu'il a eue, il y a quelque chose de très touchant parce qu'on peut vraiment se moquer de lui. Je sais pas comment... On peut dire, mais en fait, il était juste drogué. C'est une vision d'un drogué mourant, en fait. Et lui, il bâtit quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très touchant et qui rend le...
En fait, qui se dévoile, quoi, c'est ça ?
Qui se dévoile, voilà, exactement. Il ose dire, j'ai l'impression que j'ai quitté la Terre à un moment et que peut-être qu'il y a quelque chose après la mort, alors qu'il est très vieux et qu'il se délabre complètement. Et qu'évidemment, lui-même, sa part intelligente, lui dit « Non, mais en fait, il n'y a rien, mec. T'es... Mais peut-être que si, quand même, j'ai eu cette vision. Enfin, y a quelque chose, c'est très beau. » Et j'adore ce livre. Voilà, je vous conseille de le lire.
Merci beaucoup, Riyad Sattouf.
Merci à vous.
Ça y est, on a fini de déballer votre bibliothèque.
Voilà, super.
Non, c'est vous, super.
J'ai beaucoup trop parlé, mais vous allez couper.
Ça va pas. Non, ça dure une heure, regardez.
Oh my God, à la minute près. Amazing. Magnifique. Si seulement je pouvais les prendre dans mes bras, tous les réunir autour de moi, dans un feu de joie. Louise, Michel, Delpech, dans un feu de joie. Dans un feu de joie. Louise, Michel, Berger, dans un feu de joie.
Moi, j'ai juste les voir respiratoires complètement brûlés à côté de...
Maman Marie, j'aurais été le dernier à vous entendre parler.
Ouais.
Ah ouais. On va passer après sur François.
Merci beaucoup.
J'ai mangé la mauvaise partie.
C'est trop chouette.
Non, on refait la sortie là parce que... Bon, Maman Marie, merci.
Merci Riyad. Hein? Merci pour tout, c'était trop bien.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci.
Trouvez toutes les références des œuvres citées par Riyad Sattouf sur le site franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi sur cette page que vous pouvez écouter l'ensemble de nos portraits de bibliothèque. À la prise de son à l'extérieur, c'était Andreas Jaffray. Au mix à l'intérieur, c'était Ludovic Auger. Et à la réalisation, c'était Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
Allez, ciao Toros.